Oui. Bien, bonsoir. Alors tout d'abord, l'espace Mendès France me demande de vous préciser que dans cette salle, ce soir, c'est bien la conférence sur les troubles bipolaires, parce que juste à côté, au planétarium, il y a une conférence sur un thème relatif à l'astronomie. Donc c'est important de ne pas s'y perdre. Alors, il s'agit donc d'une conférence organisée par l'association ASPES, qui organise depuis 15 ans des conférences en partenariat avec l'espace Mendès France sur des thèmes relatifs à la santé. Et c'est probablement la dernière conférence sous cette forme que nous tenons ici. Enfin, il y aura un avenir à notre partenariat. Donc, nous accueillons trois intervenants pour nous parler des troubles bipolaires et d'un certain nombre de questionnements qu'il y a autour de cette problématique. Donc, le premier intervenant sera le professeur Jaffari, qui va présenter de façon globale la problématique autour des troubles bipolaires, aussi bien sous les aspects scientifiques, les perspectives thérapeutiques, la clinique, et puis aussi les perspectives organisationnelles. Ensuite, c'est le docteur Marie-Josée Rousseau, qui est psychiatre. Alors, le professeur Jaffari est professeur de psychiatrie à Poitiers. Marie-Josée Rousseau, qui est psychiatre au centre hospitalier Camille Claudel à Angoulême, va nous parler plus précisément du parcours de soins dans le cadre des troubles bipolaires, de l'organisation mise en place au niveau régional, et puis aussi, je pense, de la clinique. Et puis, en troisième intervenant, ce sera notre ami Jacques Lavignotte, membre d'ASPES, qui exposera un petit peu le point de vue des usagers au travers de leurs associations qui œuvrent en partenariat avec les professionnels pour l'organisation et le suivi de ce dispositif. Je vous passe la parole, Nemat.
Merci beaucoup. Roland, merci à l'association d'avoir organisé cette soirée.
J'ai oublié de préciser que nos débats s'arrêtent impérativement à 22h30.
Alors dépêchez-vous d'avoir des questions maintenant. Hein. Et puis bien sûr, je remercie l'espace Mendès France de permettre à la psychiatrie de pouvoir s'exprimer, et particulièrement sur une pathologie, les troubles bipolaires, dont la prévalence est élevée et la prise en charge nécessite bien sûr d'être cadrée à la fois en termes de diagnostic et de pronostic. Moi, ce que je vais vous proposer ce soir, c'est d'essayer de regarder ce qui existe sur le plan national, international. Et vous verrez à chaque fois, je vous dirai, en Poitou-Charentes, je ne sais pas. C'est-à-dire, les données, il n'existe pas de données autour de cette pathologie en termes de ce que je vais vous présenter. Alors, qu'est-ce que c'est que les troubles bipolaires ? D'abord, les troubles de l'humeur, c'est-à-dire quand vous avez une modification pathologique de l'humeur, soit ça se traduit sous forme d'une dépression qu'on dit unipolaire, c'est-à-dire vous ne faites que des dépressions, soit sous forme bipolaire. Et là, on a soit des bipolarités de type 1, de type 2, ou ce qu'on appelle la cyclothymie, ou les formes qui ne sont pas spécifiques. On va entrer dans le détail. Quand on fait une dépression, ce n'est pas parce qu'on pleure qu'on est déprimé. Ce n'est pas parce qu'on ne dort pas qu'on est déprimé. Non, il faut une association parmi les symptômes qu'on a ici, de plus de 5 symptômes, pour parler d'une dépression. C'est-à-dire, il faut être déprimé, ou alors ce qu'on appelle la perte d'intérêt ou de plaisir, ne pas dormir, ou perdre de poids, ou à être agité, ou fatigué, sentiment de dévalorisation, difficulté de concentration ou des idées suicidaires. C'est 5 de ces symptômes qui permettent de dire on est déprimé ou pas. Juste le fait de pleurer, ce n'est qu'un des symptômes de la dépression. Ça, pendant au moins 2 semaines, ces symptômes doivent persister. Alors, si je prenais Je reviens à la base et je reprends la notion de l'humeur. Ici, c'est plus, ici, c'est moins, et ici, bien sûr, on représente le temps. Vous pouvez entrer, madame. Vous voyez, on a des variations thymiques ici, autour de cet axe-là. C'est-à-dire qu'un matin, on se réveille, on est content, on est bien, on a envie d'aller au travail, on a envie de faire des choses. Un autre matin, on se réveille et on n'a pas justement envie de faire des choses. Et il y a ceux qui peuvent se retrouver là-dedans. Alors, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais moi, dans ma jeunesse, je me rappelle, j'avais un copain, le matin, il ne fallait surtout pas lui parler quand il se réveillait. D'accord, voilà. Et une fois qu'il avait pris son café, c'est bon, c'est parti, on pouvait lui parler, on pouvait, etc. Eh bien, cette variation-là, si vous voulez, c'est dans ce qui est acceptable. Si on lui parlait, il n'allait pas nous casser la tête. Il ne répondait pas. Voilà. Et ça, cette variation-là, ce sont les variations normales de l'humeur. Par contre, lorsque ça descend de côté moins ici, comme vous pouvez voir, ça devient une dépression. Alors, cette dépression peut être d'intensité sévère, parce que ça descend très très bas, ou d'intensité modérée, parce que ça descend moins bas. Et donc, quand on ne fait que des dépressions, quand ça ne fait que des descentes, c'est-à-dire des épisodes, c'est ce qu'on appelle une dépression unipolaire. D'accord ? C'est extrêmement simple. Par contre, contrairement en bas, il y a plus en haut, et il y a des patients qui font ce qu'on appelle un accès maniaque. Accès maniaque, ce n'est pas au sens de la maniaquerie, je veux dire, qu'on entend. L'accès maniaque, ça veut dire que ce sont des patients qui, sans prendre... Alors, l'exemple que je donne souvent, c'est que quand on boit un peu d'alcool, un ou deux verres, ça va. Trois, quatre verres, ça commence à être sympa. Cinq, six verres, ça commence... Bon, on parle dans des... On peut même commencer à toucher. Et au bout de... un peu plus de verre, on peut carrément enlever sa veste ou sa chemise sans avoir de problème. Voyez. Or ça, dans les pathologies maniaques, on n'a pas besoin de boire et il y a une élévation de l'humeur, il y a une élévation envie de faire des choses, comme si on était familier avec les patients, enfin avec les gens qui sont autour de nous, même si on ne les connaît pas. D'accord. Cet accès maniaque, et les idées vont très très vite. Et l'exemple que je donne aussi souvent, c'est que si vous êtes dans une voiture, vous mettez au volant de cette voiture et vous mettez au point mort et vous appuyez sur l'accélérateur. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait boum boum, mais ça n'avance pas. D'accord? Mais c'est ça qui se passe dans la tête de ces patients. C'est-à-dire que ça tourbine à fond, mais ça avance pas dans un sens précis. D'accord? Et c'est ça l'accès maniaque. Par contre, il y a, ça c'est ce qu'on appelle bien sûr, vous avez compris, avant, c'est la bipolarité de type 1. La bipolarité de type 2, c'est ce qu'on appelle l'hypo, c'est petit, hypomanie. Hein, hypo-petit, manie. Hein, c'est une petite manie. Donc c'est quoi? C'est que vous avez la même symptomatologie, sauf que dans l'hypomanie, vous pouvez construire, c'est-à-dire la pensée peut se concentrer autour de quelque chose et construire une voie. Vous voyez, ça peut être orienté vers un objet. Alors, cette hypomanie, ça dépend le degré de la capacité des patients de contrôler cette hypomanie. Il y en a qui arrivent, il y en a qui n'arrivent pas. Et justement, tout le problème de l'hypomanie, c'est que notre société... Alors, encourage beaucoup les patients hypomanes parce que les hypomanes, ce sont ceux qui dorment peu, qui travaillent beaucoup, qui ont des idées, parfois qui dépensent en prenant des risques qui ne sont pas utiles. Mais comme dit l'autre, si je prends le risque, si je suis, par exemple, si je suis au chômage et j'ai que, je sais pas moi, 150 euros par mois pour vivre, mais par contre, si je joue au loto et que je gagne d'un seul coup, eh bien, j'ai fait le bon choix. Sauf que pour faire ça, alors ce n'est pas tous les chômeurs non plus, mais si je suis hypomane, je peux prendre des risques dont je sais que je peux perdre, mais je peux aussi gagner. Et donc, dans cet exemple-là, c'est que le problème de l'hypomanie, C'est quoi? C'est lorsqu'on va faire une dépression. En fin de compte, les patients ne viennent jamais voir en consultation parce qu'ils sont hypomanes. Parce qu'au contraire, la société encourage l'hypomanie. Mais par contre, lorsqu'il y a une dépression, comme ici, et qu'on pose des questions par l'interrogatoire, on se rend compte que ces patients étaient hypomanes. Eh bien, le risque chez ces patients-là de passage à l'acte suicidaire s'est multiplié par 5 à 10 fois plus de risques de passage à l'acte suicidaire ou des complications qu'il va y avoir après. On reviendra sur cette idée-là. C'est pour ça qu'il faut les repérer, l'hypomanie, et qu'il faut savoir, en termes de traitement et la prise en charge thérapeutique, ces patients-là, alors qu'on est tenté devant un épisode dépressif de mettre un antidépresseur, eh bien, chez ces patients-là, il ne faut justement pas mettre un antidépresseur, mais un thymorégulateur, ou en tous les cas les associer, et pas pendant une durée aussi longue qu'on ferait, etc. Après, vous avez, voilà les définitions de l'hypomanie, ce sont des épisodes qui durent plus de 4 jours, et on a au moins 3 des symptômes suivants, augmentation de l'activité, d'estime de soi, on a envie de communiquer, pas besoin de sommeil, il y a une fuite des idées, et puis, on s'engage dans des activités agréables, mais à risque. Par exemple, des achats inconsidérés. Et ce n'est pas à la suite d'une prise de l'alcool ou de drogue, etc. Non, c'est naturel. Je veux dire, c'était là avant. Et puis, surtout, ce changement peut être observé par l'entourage. C'est-à-dire, les gens, quand vous les voyez, la famille vous dit, mais il n'était pas comme ça ou elle n'était pas comme ça. Mais d'un seul coup, c'est arrivé. On ne s'explique pas pourquoi. Il a commencé ou elle a commencé à faire avoir ces comportements. Et après, il y a des formes non spécifiques, ou enfin, en tous les cas, ce qu'on appelle cyclothymie, c'est-à-dire des variations de l'humeur, en haut, en bas, pendant plus de 2 ans. Et il y a d'autres formes que je ne rentre pas dans les détails. Alors, pourquoi vous avoir décrit ça? C'est parce que toute ma présentation va être centrée sur bipolaire de type 1, donc accès maniaque. Là, il y a une hospitalisation, pas discussion. La bipolarité de type 2, ceux-là, ils arrivent à l'hôpital que s'il y a une dépression. D'accord? Et puis, il y a les autres formes. Regardez la prévalence. Aux États-Unis comme en Europe, c'est 2,4. En France, c'est 1 à 2,5%. Et en Poitou-Charentes, je ne sais pas. Vous savez, lorsqu'on dit en France ou aux États-Unis, par exemple, alors ça, en Europe, c'est surtout les Suédois, les Finlandais, ils sont super bien structurés. Ils font des études, ils disent, alors nous, vous allez voir ce soir, je vais vous présenter des données suédoises ou des Finlandais qui nous disent, ben, il y a tant de pourcents, etc., etc. Comme si nous, on n'était pas capable en Poitou-Charentes de savoir combien de patients on a qui sont bipolaires ou combien qui souffrent d'une addiction associée, etc., etc. Hein? Et donc, si vous regardez, les bipolaires de type 1, c'est 0,6%, bipolaires de type 2, 0,4%, et la grosse majorité de ce qu'on appelle les formes subsyndromiques, les autres formes, c'est 1,4%. 1,4%. Alors, je ne vais pas dire ici ce soir, mais quand je fais des cours à la fac de médecine et qu'il y a 100 étudiants devant moi, je leur dis, vous voyez, dans 100, il y a au moins 2 bipolaires. Hein, c'est pour vous représenter un peu ce que ça veut dire. 1%, ça veut dire 1 sur 100. Il y a autant d'hommes que de femmes, et quelle que soit leur classe sociale ou leur lieu de résidence, il y a des pauvres comme des riches, etc. Et ça ne touche pas plus les pauvres que les riches, mais ça touche tout le monde. Habituellement, les troubles bipolaires de type 1, ça commence vers l'âge de 18 ans, bipolaires de type 2, ça commence vers l'âge de 20 ans, et les formes subsyndromiques vers 22 ans. En gros, c'est une pathologie de l'adulte jeune. C'est une maladie chronique, c'est-à-dire que dans plus de 90% des cas, il va y avoir des rechutes. Et ça, les premières rechutes vont survenir dans les 2 premières années de l'épisode initial. C'est-à-dire lorsque la première fois vous venez pour un accès maniaque, dans le cas de bipolarité de type 1, ou pour une dépression dans le cas de bipolarité de type 2, dans les 2 années qui vont suivre, il va y avoir une rechute. D'où l'importance de bien structurer la prise en charge, bien savoir comment s'occuper de ces patients. Alors là, une des questions qui arrive souvent, est-ce que c'est génétique? Je ne sais pas. Ce soir, je vous dis, en Poitou-Charentes, je ne sais pas combien il y a de frères et sœurs qui portent cette maladie, etc. Mais les données dans la littérature disent que si l'un des parents souffre d'un trouble bipolaire, le risque qu'un des enfants soit atteint de bipolarité est de 20%. Et si le père et la mère ont un trouble bipolaire, ce risque monte de 50 à 60%. Alors, ça aussi, il faut savoir tout de suite, je veux dire, relativiser. Quand j'ai des patients en consultation, je leur dis, oui, ben, vous avez passé votre beauté, votre intelligence, votre taille à votre enfant, et puis il y a tout ce qui est dans les gènes sont passés. Ça ne veut pas dire pour autant que vous avez fait un mauvais... Enfin, ce n'est pas de votre faute, c'est comme ça, mais on sait s'en occuper. Voilà, c'est surtout ça. Alors, le pronostic des troubles bipolaires et leur impact médico-social est particulièrement touché par les complications qu'il va y avoir. Comme vous pouvez voir ici, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pardon, dit que les troubles bipolaires sont parmi les 10 pathologies les plus invalidantes. Vous voyez ? Pourquoi ? D'abord parce qu'il va y avoir des actes médico-légaux à cause de la désinhibition lors de l'accès maniaque ou l'hypomaniaque. Puis parce que ça engendre une désinsertion familiale, professionnelle ou sociale. Vous voyez le taux de suicide, c'est aux alentours de 20%. 25 à 60% des patients bipolaires feront au moins une tentative de suicide dans leur vie. Et parmi ces patients qui font une tentative de suicide, 4 à 20% de ces patients vont en décéder. Il va y avoir, dans comme complication, ce qu'on appelle les accidents iatrogènes, par consommation de produits ou par prise de risque incalculée. Et puis, il y a aussi la consommation, bien sûr, de tout ce qui est substance ou d'alcool. L'espérance de vie est moindre chez les patients bipolaires à cause de ce que je viens de dire. Et puis surtout de l'apparition de cycles rapides. C'est quoi le cycle rapide ? C'est-à-dire que normalement, lorsqu'on est bipolaire de type 1, vous vous rappelez, il y a accès maniaque en haut, puis dépression. Ça, c'est un cycle. 3 mois ou 4 mois ou 6 mois après, on refait la même chose. De nouveau, 6 mois après. Et chez ces patients-là, qui font des cycles rapides, c'est 4 cycles pendant une année. Et donc, c'est ce qu'on appelle les cycles rapides. Et bien, cela, la prise en charge est extrêmement compliquée. Alors, il faut savoir qu'il y a une notion de retard au diagnostic et réellement une perte de chance pour le patient. Alors, au niveau international, on dit qu'en Europe et aux États-Unis, il y a 30 à 70% d'erreurs diagnostiques et de retard diagnostique. D'accord ? 8 à 10 ans entre le premier épisode thymique et le diagnostic correct de troubles bipolaires associés à la prescription d'un thymorégulateur. Donc ça, ce sont des données aux États-Unis, mais en Poitou-Charentes, je ne sais pas. Conséquence, bien sûr, à la fois, plus c'est diagnostiqué tard, moins bien c'est pris en charge, et donc vous voyez les conséquences qu'il peut y avoir. Pourquoi il y a ce retard diagnostique ? Parce que au début, je vous ai dit, 1,4% de ces patients ne présentent pas une forme clinique très typique. C'est subsyndromique. Et donc là, ça nécessite pas qu'un seul médecin, mais un groupe qui puisse discuter ensemble et prendre des décisions ensemble. C'est-à-dire de présenter des dossiers et discuter ensemble pour prendre des décisions ensemble. Alors, vous voyez par exemple, dans l'âge d'apparition précoce, 40 à 60% des cas, ça peut apparaître avant 20 ans et 10 à 20% avant 12 ans. Mais comment peut-on déterminer ces variations de troubles de comportement qui existent chez l'adolescent ? C'est plutôt la bipolarité ou est-ce que c'est lié à une variation normale, je veux dire, de l'humeur par rapport à son âge ? Donc ça aussi, ça demande à ce que les dossiers puissent être discutés à plusieurs. La variabilité de la présentation clinique, c'est-à-dire que ces patients, quand ils viennent vous voir, comme je vous ai dit, il n'y a que dans 25% des cas, les patients arrivent comme déprimés. Et 10 ans après cet épisode, ils vont développer un accès maniaque ou hypomaniaque. Parce que ce qui permet de porter le diagnostic de trouble bipolaire, c'est ce que vous avez, je vous ai montré en rouge, c'est la manie ou l'hypomanie. Et là, ce n'est pas au début, ça apparaît après. Et puis, parfois, il peut y avoir des symptomatologies de type schizophrénique, c'est-à-dire les jeunes adolescents peuvent entendre des voix ou voir des choses. Et on peut se tromper avec le diagnostic de la schizophrénie. Ou alors, on peut se tromper avec des troubles de la personnalité. D'accord ? On peut aussi se tromper parce qu'il peut y avoir des conduites addictives. Et particulièrement, ce retard encore, c'est peut-être parce que pendant la phase hypomaniaque, les patients ne viennent pas vous voir, ne consultent pas. L'impact sur le plan socio-économique, mais aussi personnel, l'OMS en 2011 place les troubles bipolaires au 7e rang des causes mondiales de handicap des maladies non mortelles. Alors, c'est vrai que quand on présente les données et les collègues qui écoutent ça, ils disent, bah, dis donc, tout ça, ça coûte trop cher, pourquoi il n'y a pas plus de moyens pour la psychiatrie pour essayer de développer la recherche ou de comprendre, de prendre en charge ces patients. Et la réponse est facile, c'est que, par exemple, quand vous avez un infarctus de myocarde, si vous ne le prenez pas en charge, il y a un décès. Bah, dans le cadre des pathologies psychiatriques, tant qu'il n'y a pas de suicide, évidemment, si on enlève ça, les gens ne meurent pas de la pathologie psychiatrique tout de suite. D'accord ? Et donc, à partir de là, il y a une étude que j'ai trouvée. C'est une étude européenne entre l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la France et la Suède. Et dans cette étude, vous voyez, dans plus de 75% des cas, il y a un trouble associé au trouble bipolaire, par exemple les troubles anxieux, dans 16 à 70% des cas, l'alcoolisme, dans 20 à 34% des cas, taux de suicide toujours élevé dans cette population. Et puis, par exemple, en Allemagne, 70% des patients étaient au chômage et 72% recevaient une pension d'invalidité. En Italie, vous avez presque 70% de ces patients qui étaient au chômage. Et en Angleterre, comme ils sont très pragmatiques, ils avaient regardé combien ça coûtait. Eh bien, ça coûte 1 510 millions de livres sterling, le coût annuel, parce que ces patients ne travaillent pas, et des hospitalisations coûtent presque 5 milliards de livres sterling. En France, il y a une étude, cette étude qui était dans le cadre de l'étude européenne, où le coût direct médical et des hospitalisations est à peu près entre 2 à 5 milliards de livres sterling. Donc c'est extrêmement élevé comme prix que ces patients payent. Alors, de la même manière, quand on regarde combien de pourcents de ces patients recevaient un traitement adapté ou adéquat, il n'y a que 25% de ces patients. 1 sur 4 qui recevaient un traitement adapté. Alors, quelle prise en charge ? Évidemment, le traitement qu'on peut proposer à ces patients, c'est la psychothérapie avant tout, la psychoéducation, l'aménagement du mode de vie. Je passe là-dessus parce que M. Lavignotte va en parler tout à l'heure. Les associations de patients, et c'est extrêmement important de travailler avec les associations de patients parce que il y a énormément de choses, d'informations qui peuvent être, véhiculées entre deux patients et que c'est très efficace quand, je dis souvent, Madame X entend que Monsieur Y présentait un accès maniaque comme son mari et qu'elle n'était pas seule dans cette situation-là. Voilà. Il y a plus d'une fois, les patients reviennent et disent, oui, c'est vrai que je ne me suis pas rendu compte à ce moment-là que c'était la maladie, etc. Alors, les médicaments, il y a une série de traitements, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais il y a les thymorégulateurs, le lithium, il y a les traitements qui étaient autrefois utilisés et encore utilisés comme anticonvulsivants, mais qu'on peut utiliser comme thymorégulateurs. Il y a des antipsychotiques et il y a la sismothérapie. Alors, la sismothérapie revient en force parce que c'est un traitement efficace qu'il faut savoir proposer au bon moment dans le cas d'une dépression. On peut en parler un peu plus tard. Alors, quel que soit le traitement que nous allons proposer, 40% de ces patients ne répondront pas. Voilà. Psychothérapie, pharmacothérapie, association, etc., de patients, 40%. Et si vous faites des techniques de stimulation comme la sismothérapie pour la dépression dans le cadre d'un trouble bipolaire, il y a 10% qui ne répondront pas. D'accord ? Et donc, il faut développer d'autres techniques de recherche, comme, par exemple, les techniques de stimulation transcrânienne directe à courant continu, l'ARTMS ou la stimulation cérébrale profonde. Alors, qu'est-ce que c'est l'ARTMS ? C'est un champ magnétique. Vous voyez, vous êtes assis ici, c'est un champ magnétique qui est délivré comme ça. On vous parle, vous êtes éveillé, vous entendez. Il n'y a pas d'effet secondaire particulier. Ce sont des champs magnétiques qu'on utilise pour faire, par exemple, des IRM. C'est la même chose. Hein. Mais vous voyez, c'est centré sur un point de 2 cm, pas plus. Et ça, ce sont des techniques actuellement en cours de recherche que nous utilisons pour essayer de savoir si on peut aider ces patients sans forcément et diminuer la prise en charge des tout ce qui est l'aspect de traitement médicamenteux. Voilà, et en fin de compte, ce champ magnétique va modifier au niveau chimique comme si c'était une prise de traitement médicamenteux. L'autre technique qu'on utilise actuellement aussi dans les cas sévères et pour qui même la sismothérapie n'a pas fonctionné, on utilise des techniques dites neurochirurgicales, des stimulations cérébrales profondes, ces deux électrodes reliées à un neurostimulateur qui apporte une quantité de charge à des parties particulièrement ciblées de cerveau. Eh bien, ces techniques-là, aussi en termes de recherche, est dédiée à une population vraiment très très faible qui ne répond à rien d'autre de ce qu'on a aujourd'hui et qui permet de les soigner. En fin de compte, on a retenu pendant longtemps que ces patients faisaient un accès maniaque, puis une dépression, puis intervalle libre, puis ça recommençait. C'est-à-dire, intervalle libre, on redevenait comme avant. Ça, c'est une idée, une vieille idée, qu'on avait en psychiatrie, qui était décrite depuis longtemps. Et on a des collègues, en Angleterre particulièrement, qui se sont intéressés à évaluer ces périodes qu'on appelle intervalles libres, avec des tests neuropsychologiques. Et ces tests neuropsychologiques, il y a un test qui s'appelle la prise de décision. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez devant vous un écran, et vous pouvez, il y a des cartes, et vous pouvez jouer. Donc vous cliquez sur les cartes, et donc vous pouvez, par exemple, gagner, par exemple, $120. Et puis, vous rappuyez ici, vous pouvez gagner $200. Puis, vous rappuyez ici, vous gagnez $400. Soit vous vous arrêtez, soit vous appuyez ici et vous pouvez perdre tout ce que vous avez gagné. Donc, logiquement, vous êtes emmené à prendre des décisions face à une situation qui est une situation, je veux dire, de jeu. Et en fin de compte, quand on le fait, on se prend à ce jeu. Et parfois, alors regardez ce que ça donne. Quand vous êtes un sujet normal, vous allez jouer. Et vous voyez, donc ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et à un moment donné, on arrête de jouer parce qu'on a suffisamment gagné. Et je dis, c'est bon, je m'arrête là. Mais les patients qui sont maniaques, c'est-à-dire, je vous dis, hein, ça tourne la tête dans la tête et ils prennent des risques, etc. Ceux-là, vous voyez, ils perdent beaucoup ici. Ça, c'est pendant la phase d'accès maniaque. Maintenant, si on regarde la même chose, mais pendant la phase otimique, c'est-à-dire pendant la phase pendant laquelle ils sont redevenus à l'état normal. Donc, ils ont cette étude-là, ils ont pris 150 sujets normaux, 90 patients qui étaient en otimique, 45 qui étaient en accès maniaque et 32 qui étaient déprimés, mais phase bipolaire. Eh bien, là, vous voyez bien que là, c'est l'état normal ici, mais qu'en phase otimique, vous voyez, on ne retourne pas comme avant. Autrement dit, ce travail qui est, vous voyez, 2011, c'est très récent, veut dire que le retour à la normalité comme avant, c'était décrit, mais ce n'est peut-être pas réel, sur le plan fonctionnel. Alors, à partir de ces données, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant en Poitou-Charentes? Parce qu'il y a bien sûr des centres de soins partout, hein, que ce soit Poitiers, La Rochelle, Niort, Angoulême, Saintes, Jonzac, Royan, Thouars, Jarnac, Saujon, etc. Mais il n'y a pas un lieu où on se réunit pour parler des cas, comme je vous ai dit, 1,4% de ces cas où on ne sait pas est-ce que c'est un bipolaire ou pas. On ne sait pas que faire de ces patients qui résistent à tous les traitements. Il n'y a pas non plus un endroit où on peut essayer de développer un travail en réseau et essayer de standardiser la manière dont on prend en charge nos patients, c'est-à-dire tout le monde, selon les guidelines, selon les connaissances actuelles, qu'on offre aux patients les mêmes chances pour qu'il n'y ait pas de perte de chance. Eh bien, dans cette idée-là, ce qu'on a proposé avec l'Agence régionale de santé, c'est ce que ma collègue va vous présenter tout à l'heure, c'est de développer des actions de recherche. Alors, je ne peux jamais m'empêcher de faire cette comparaison, parce que dans ma jeunesse, quand je suis arrivé dans la région, j'ai eu la chance de voir René Monory, qui m'avait dit, mon garçon, on a la chance et la malchance d'être à Poitiers. La chance, c'est quand on s'entend, on fait le Futuroscope, premier mondial. La malchance, c'est que quand on ne s'entend pas, on est tellement petit qu'on est pris en tenaille entre Paris, Bordeaux et Nantes et on finira par disparaître. Et je crois effectivement que ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que si on veut exister et si on veut prendre en charge les patients en termes des données actuelles, il faut se donner la main. Et il faut que, comme je dis souvent, en termes de recherche, évidemment, la relation entre médecin et patient soit pas de chaque côté de la table, mais tous de même côté de la table, c'est-à-dire il y a médecin, le patient, la famille, les politiques, contre la maladie et pas contre le malade. Et à partir de là, on peut développer des actions de recherche et essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Donc, dans ce sens-là, il faut développer des actions de recherche par le patient, pour le patient, que ce soit au niveau clinique, au niveau thérapeutique, au niveau de la réhabilitation psychosociale, au niveau de la prévention, selon une méthode biopsychosociale. Pas que de la biologie, pas que de la psychothérapie, pas que ceci et ça, mais ensemble. Et l'objectif, alors, ça serait que dans le cadre de développement de ce réseau, ça permettrait de favoriser les synergies, d'actualiser nos connaissances, mais aussi de développer des stratégies qui permettraient, public comme privé, de travailler ensemble et renforcer aussi l'attractivité de notre région pour les plus jeunes, pour que les plus jeunes, que ce soit médecins, infirmières, psychologues, etc., veuillent venir et s'installer dans notre région et proposer des compétences adaptées. Si on arrivait à mettre en place ce qu'on vient de dire et ce que ma collègue va vous raconter tout à l'heure, ça permettrait dans notre région de faire ce qu'on appelle de l'innovation thérapeutique, de structurer la prise en charge, de mettre en place un réseau régional, permet de faire des recommandations, des publications. Et comme ce soir, je vous ai présenté des données suédoises, si un jour vous allez en Suède, on vous présentera des données poitevines. C'est marrant, regardez, vous avez rigolé. Quand j'ai parlé de données américaines et de données suédoises, personne n'a rigolé. Mais quand je parle des données poitevines, ça fait rire. Et pourquoi ? Et bien pourquoi ? Et alors, vous savez que les données suédoises, ça sort souvent d'une petite ville en Suède. Gotland. C'est une île. Donc ça veut dire qu'il faut croire en nous. Il faut croire dans notre capacité de vouloir développer des choses, de pouvoir développer des choses. On peut, mais il faut y croire. Mais aussi, bien sûr, de proposer des recommandations, d'avoir des collaborations, bien sûr, entre public et privé, les médecins généralistes, mais aussi avec les associations de patients. Et dans cette idée-là, nous avons créé, maintenant, ça fait 4-5 ans, une unité de recherche clinique intersectorielle à vocation régionale au centre hospitalier Henri Laborie, que vous pouvez voir ici, dans lequel vous pouvez venir. C'est ouvert à tout le monde. Les associations de patients utilisent régulièrement les salles les week-ends. Hein, et c'est ce que j'appelle toujours, l'espace est ouvert. Et là, on peut réellement essayer de développer et de réfléchir sur cette question qui est la question des troubles bipolaires. Bon, je vais peut-être m'arrêter là pour laisser un peu de temps et de la place pour la discussion. Merci.
L'intervention, on gardera la fin pour le débat.
Bon, je vais essayer de prendre la suite de Némat, c'est pas très facile, mais bon. Moi je suis psychiatre de base, c'est-à-dire un praticien clinicien depuis un certain nombre d'années. Et je vais vous expliquer un petit peu la suite de ce que Némat a évoqué, c'est-à-dire comment nous nous sommes retrouvés autour d'une table pour parler de troubles bipolaires. Et comment on est arrivé donc à cette fédération Ariatim. Alors, c'était en effet, ça remonte à 2 ans maintenant, c'est 2-3 ans, c'était à l'initiative de l'Agence régionale de santé qui, un jour, nous a convoqués en nous disant ben voilà, les troubles bipolaires, nous, ça nous intéresse, on voudrait que peut-être la région s'organise par rapport à ça. Voilà. Alors, c'était, comme le dit Némat, les différents établissements qui travaillent dans le champ de la santé mentale sur la région Poitou-Charentes. Je ne parle pas du tout de la future grande région. Là, je suis toujours... voilà. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qu'a expliqué Némat. Pourquoi le deal nous paraissait intéressant? C'est que c'est une pathologie qui est quand même très répandue. Ce n'est pas une niche, une maladie rare, bien que ce soit aussi intéressant de travailler là-dessus. Mais là, on est dans un problème de santé publique, donc ça paraissait vraiment judicieux. Beaucoup de patients vont donc errer avant d'avoir un diagnostic. J'en ai vu beaucoup. J'ai vu essentiellement des patients déprimés qui arrivaient avec une étiquette de dépression chronique, qui était sous antidépresseur depuis quelquefois 10 ans, 15 ans, et qui n'y allait pas mieux, bien au contraire. Donc ça, pour moi, c'est la première difficulté, ça va être de diagnostiquer les états dépressifs des troubles bipolaires. Alors le retard diagnostique, Némat l'a dit, 7 à 10 ans entre le diagnostic et le traitement par rapport aux premiers symptômes. On veut dire que quelqu'un qui va faire un état dépressif, il va être traité comme dépressif et 10 ans plus tard, on va tout d'un coup réaliser que c'était un bipolaire et donc que le traitement qu'il a eu n'était pas le traitement qui était le meilleur, vu son cas, ce qui est quand même préjudiciable, sachant que, de mon expérience clinique, je dirais aussi qu'entre chaque rechute, on va noter une difficulté croissante pour ressortir le patient de l'état dans lequel il se trouve. C'est-à-dire que chaque décompensation est accompagnée d'une perte de chance. Donc ça, c'est quand même important. Donc ce projet régional a commencé en 2013. On s'est donc réunis. Alors on est bien sûr, l'idée était de mettre en commun un corpus d'idées, en s'appuyant bien sûr sur les recommandations de l'HAS, qui est la Haute Autorité de Santé. Donc on a commencé par essayer de voir comment, quelle était la substantifique moelle contenue dans l'HAS et de voir comment on pouvait se l'approprier de manière à pouvoir la décliner dans toute la région, dans les principaux établissements, pour qu'on puisse après traiter de manière commune ces patients et qu'il n'y ait pas de perte de chance. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cette fédération Ariatim, l'objectif, c'est d'améliorer la qualité des soins, donc de donner aux patients une chance plus ajustée, je dirais, d'être soignés le mieux possible. Donc, les troubles bipolaires, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Personnellement, je dirais que le diagnostic de bipolarité, chaque fois qu'il y a un épisode maniaque qui s'impose de toute façon, mais là, c'est relativement simple pour le psychiatre, parce que véritable état maniaque fait quand même pas mal de bruit, et donc il va arriver souvent à l'hôpital. Ce qui est plus compliqué, ce sont les troubles bipolaires 2 qui sont beaucoup plus retardés par rapport au diagnostic. Le parcours du patient. Alors, ce sur quoi on s'est mis d'accord, c'est que le patient, il y a un premier niveau, on est dans une graduation de soins, donc on va considérer, si vous voulez, un patient modérément malade en termes d'intensité de pathologie, je veux dire, jusqu'à des pathologies beaucoup plus, soit beaucoup plus spectaculaires, soit beaucoup plus chroniques et invalidantes. Alors, le premier repérage, eh bien, moi, je dis que le premier repérage, il est personnel et familial. Parce que c'est la famille qui va se rendre compte qu'un de ses membres est différent, a changé. C'est elle qui a ces éléments. C'est le conjoint, c'est le parent, ce sont les enfants, etc. C'est le médecin généraliste, d'où l'importance de travailler avec ce médecin généraliste. Et ça n'est pas toujours très facile, parce que les médecins généralistes sont plus ou moins sensibilisés à ce repérage. Ils ne sont pas très nombreux et ils sont très occupés. Donc le travail de lien avec le généraliste, je sais que sur la Charente, c'est quelque chose qui est un peu compliqué. Donc après, la première chose qui va être indispensable, c'est d'établir une relation de confiance avec le patient. C'est-à-dire que là, on est dans l'hypothèse où le patient fait une demande, c'est-à-dire il vient voir le professionnel de santé pour dire que ça ne va pas. Donc il faut déjà être en capacité de nouer une relation, donc d'avoir un peu de temps à consacrer au patient. Ça n'est pas un entretien qui peut se faire en 5 minutes. Ce n'est pas possible. Il va falloir donc certaines disponibilités. Donc il faut évaluer l'état de l'humeur du patient, c'est-à-dire, comme le disait Nemat, il va falloir être capable à la fois d'investiguer dans tout ce qui est la symptomatologie dépressive qu'il vous a présentée, mais aussi rechercher les fameux éléments hypomaniaques. Alors on verra après comment on peut faire. Il faut toujours évaluer le risque suicidaire, donc dès le premier entretien, hein, c'est obligatoire. Donc ça, certains médecins ne le font pas de manière systématique. Il faut rechercher les traits de personnalité, savoir qui est la personne que l'on a en face de soi. Évaluer son environnement socio-professionnel, ça veut dire que ce n'est pas du tout la même chose de prendre en charge quelqu'un qui est marié, père de famille, et qui travaille, qui est peut-être responsable, qui conduit sa voiture, qui a une vie assez dense, et prendre en charge quelqu'un qui vit tout seul chez lui, éventuellement dans un fond de campagne, etc. C'est pas du tout la même chose. Le niveau financier aussi va être différent à partir du moment où il faudra avoir des aides qui sont plus ou moins rendues faciles. Et puis aussi tout le réseau de soutien amical. Et rechercher les comorbidités, parce que ça, c'est important. La psychiatrie, moi je dis toujours aux étudiants, aux internes, le diagnostic psychiatrique est un diagnostic d'élimination. on ne prend en charge quelqu'un en psychiatrie quand on s'est assuré qu'il n'avait pas une pathologie somatique, en particulier neurologique. Hein, parce que ça, c'est quand même le primum movas. Donc, on va investiguer pour s'assurer qu'il n'y a pas une tumeur cérébrale, qu'il n'y a pas des pathologies, etc. Et puis, on va aussi évaluer globalement l'état de santé du patient. Donc, on voit bien qu'il y a plusieurs professionnels qui vont être concernés. En première ligne, le médecin généraliste. En deuxième ligne, il y a ce que nous appelons l'accueil psychiatrique. Alors, il a été évoqué dans ces réunions que selon les organisations départementales et territoriales des hôpitaux, les accueils ne sont pas tout à fait effectués de la même façon. Mais quand même, on va retrouver toujours plusieurs lieux. Il y a des lieux d'urgence où les gens se présentent spontanément, ex abrupto, je dirais. Donc, voilà, ils viennent, hein. Il y a les CMP, les centres médico-psychologiques, où les gens ont l'habitude d'aller quand ils ont des problèmes. Et puis après, il peut y avoir carrément des structures spécialisées. On peut se présenter dans un établissement parce qu'on connaît quelqu'un, etc. Alors, le modèle charentais, mais qui n'est pas un modèle unique, c'est quand même qu'en première ligne, on va trouver un infirmier. C'est exceptionnel qu'il n'y ait pas d'infirmiers dans les structures spécialisées. Donc, cet accueil infirmier, extrêmement important, ça va être un accueil, bien sûr, individuel. Donc là, on est dans un recueil de données. Donc, ce qui se passe, c'est que le patient arrive, il va raconter le pourquoi d'abord il vient, le comment il se sent, le ce qu'il pense de sa pathologie, s'il se sent malade ou pas. S'il sait qu'il est malade ou pas, donc c'est, vous voyez que ce n'est pas la même chose selon que c'est une première consultation ou bien que c'est quelqu'un qui arrive en vous disant « je suis bipolaire depuis 10 ans, je ne dors pas depuis 3 jours, aidez-moi, je sens que je rechute ». Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, s'en suivra une consultation médicale puisqu'on est dans un entretien d'évaluation clinique et que la décision de toute façon thérapeutique, elle incombe au corps médical en termes de responsabilité. Alors, l'entretien d'évaluation va prendre en considération les mêmes éléments que l'entretien infirmier, c'est-à-dire l'état dans lequel se trouve ce patient, mais aussi le médecin va investiguer sur les antécédents personnels, l'histoire, ce qu'on appelle de la maladie, que le malade connaît mieux que personne. L'expert, c'est le patient. C'est pas le médecin. C'est le patient connaît sa maladie. Il connaît comment il est. Comment il se sent, s'il dort, s'il ne dort pas, s'il mange, s'il a des idées suicidaires. C'est lui qui sait. Après, on va chercher des antécédents familiaux. Nemad vous disait qu'il y a quand même, un gradient, je dirais, quand dans la famille, il y a des troubles bipolaires. Alors, comment demande-t-on aux gens s'ils ont dans la famille des troubles bipolaires ? C'est pas facile de poser ce genre de questions. On utilise souvent des termes extrêmement simples, c'est-à-dire est-ce que dans votre famille, il y a des gens qui ont eu des problèmes de dépression ? Alors la dépression, comme vous savez, c'est un terme, un peu un mot valise, c'est-à-dire que pour tout à chacun, tout est dépression. C'est donc suffisamment, je dirais, banalisé et entendable pour que quelqu'un puisse vous dire, ben oui, j'ai une tante. Alors, il faut se faire expliquer si c'est une tante, comment elle est tante, si elle est vraiment une tante ou une tante par alliance, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et comment s'est traduite cette dépression ? Peut-être que cette tante, elle a fait une tentative de suicide. Et puis, vous découvrez des morts par suicide. Hein ? Carrément. Voilà. Donc, vous découvrez quelqu'un qui a fait des actes, comme disait Nemat, médico-légaux, c'est-à-dire des choses un peu incohérentes, qui ont eu des conséquences. Donc ça, quand on pose ces questions, comme je dis toujours, on obtient des réponses. C'est quand on ne pose pas la question que forcément on n'a pas de réponse. Donc il faut pouvoir, de manière un peu empathique, je dirais, mais ça, c'est notre travail de faire ça. On investigue le risque suicidaire. Alors je vois M. Poubin connaît le risque suicidaire par cœur. Donc le risque suicidaire, c'est quand même... la base même du risque majeur de mort pour les problématiques psychiatriques. C'est quand même très important de se renseigner, savoir comment le patient se sent par rapport à ça. Les comorbidités, j'en ai parlé. Et puis le contexte. Alors le contexte, qu'est-ce que c'est que le contexte ? Le contexte, c'est souvent ce qui va amener la consultation. Quelquefois, La consultation n'est pas amenée par la pathologie bipolaire au sens strict. Vous avez des gens qui vont venir consulter parce qu'ils ont perdu un membre de leur famille. Vous avez des gens qui viennent consulter parce qu'ils sont dans des situations de divorce ou de rupture conjugale, ou qu'ils ont des problèmes avec leurs enfants adolescents, ou des difficultés de tous ordres professionnels. Ils viennent d'être licenciés, ou ils ont peur de l'être. Et donc, ils sont en souffrance psychique, et là, il faut être capable, à partir de ce que le patient apporte de sa souffrance, il faut quand même être capable de pouvoir remonter et rechercher et investiguer sur la pathologie bipolaire qui est donc fréquente. Alors, les éléments clés qui vont être recherchés, c'est le début des troubles. En psychiatrie, plus les troubles apparaissent jeunes, plus c'est grave. Plus ça va être éventuellement invalidant, puisqu'il faut bien comprendre que, comme disait Nemat, les intervalles libres ne sont pas si libres que ça, qu'il y a des pertes, des difficultés cognitives, c'est-à-dire des difficultés dans l'organisation de la pensée, le traitement des informations. Donc, plus le sujet va être atteint jeune, moins il aura été, je dirais, porteur, il aura emmagasiné de connaissances et de savoir-faire, plus ça va être compliqué. Moins il sera aussi, je dirais, engagé dans le cadre d'un processus de formation ou universitaire ou autre. Donc, ça va être compliqué. Et la question se pose quand même du continuum avec les troubles de l'adolescence et de la pédopsychiatrie, enfin le lien entre la pédopsychiatrie et la psychiatrie adulte. Vous savez qu'il y a des unités pour adolescents qui ont été créées il y a maintenant pas mal d'années. C'est justement pour éclairer de manière particulière cette période de la vie et faire la distinction entre ce qui va être la crise d'adolescence et les troubles liés à l'adolescence et l'entrée dans une pathologie psychiatrique. Alors, rechercher systématiquement pour tout épisode dépressif, je l'ai dit, un trouble bipolaire, la rupture dans le comportement. C'est ça qui est important. Demandez aux gens, qu'est-ce qui a changé? En quoi vous avez changé? Est-ce que c'est la quantité de sommeil? Est-ce que c'est l'irritabilité? Vous supportez plus personne? Ou tout d'un coup, vous avez l'impression que vous allez à 100 à l'heure, que vous pourriez faire des tas de choses? Est-ce que vous avez des comportements qui se sont modifiés? Est-ce que vous avez, par exemple, je dirais, une hyperactivité dans le domaine de la sexualité, dans le domaine de la prise d'alcool, dans le comportement un peu boulimique, etc. La question des addictions. Alors, la question des addictions, extrêmement importante, doit faire partie, là aussi, du premier entretien. Alors, qu'est-ce que sont les addictions? Alors, on pense tout de suite à l'alcool et aux drogues. Il n'y a pas que ça. Il y a toutes les addictions sans substance. Alors là, vous voyez, je suis devant un écran. C'est extrêmement intéressant de demander à tout à chacun, aux gens qui sont en face de vous en consultation, combien d'heures vous passez sur des écrans et qu'est-ce que vous y faites. Alors, je mets de côté, évidemment, les gens qui travaillent sur écran. Voilà. Mais pour l'avoir fait et le faire de manière systématique, alors là, je dirais, en parlant simplement, on tombe de haut quand même, hein. Parce que ce sont des heures et des heures que certaines personnes passent devant les écrans, entre Facebook, etc., tous les réseaux sociaux, les jeux, hein, Candy Crush, et etc., hein, et puis les jeux d'argent aussi, hein, parce qu'il y a le jeu pour s'amuser, mais il y a aussi les jeux d'argent. Et tout ça, ce sont des comportements addictifs. Il y a l'addiction au sexe, il y a toutes ces recherches sur Internet qui créent de véritables dépendances. Il y a bien sûr le tabac. Et quand vous prenez l'habitude, en tant que médecin, d'essayer de poser toutes ces questions, là, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a une véritable aliénation, c'est-à-dire que le sujet est coincé, si vous voulez, son planning devient hyper serré et il y a peu d'heures pour dormir aussi. Souvent, les addictions sont croisées, c'est-à-dire qu'ils sont sur les écrans, enfin, moi, j'en vois, ils sont sur les écrans, ils jouent de l'argent, il y a le whisky qui est là, bien sûr, et la cigarette de l'autre côté. Et la nuit va s'avancer. Bon. Alors, ça devient problématique. Le projet de prise en charge, alors quel est-il? Quel que soit le patient, on doit toujours privilégier la prise en charge ambulatoire. C'est-à-dire, le patient va venir en consultation, va lui proposer une thérapeutique, etc. Ça dépend de l'insight du patient, c'est-à-dire ça dépend de comment le patient est capable de s'accrocher aux soins, comment il va être capable d'accepter le traitement. 50% des patients ne prennent pas le traitement, toutes pathologies confondues. Hein. Tu me dis si je me trompe, mais que ce soit des antibiotiques, des antalgiques, ou des corticoïdes, ou traitement de l'hypertension, ou de toutes les maladies, 50%. Alors qu'est-ce que ça veut dire de dire qu'ils ne prennent pas le traitement? Ça veut dire qu'ils ne prennent pas le traitement tel qu'il leur a été prescrit. Soit ils ne prennent pas la durée, soit ils ne prennent pas la dose, soit ils prennent le traitement de la voisine, soit ils en prennent davantage, soit ils en prennent moins. C'est comme ça. Bon. Donc...
Attendez, madame.
Alors, d'abord, oui, évitez de poser des questions en cours de l'exposé, parce qu'on aura du mal à terminer. Vous avez commencé alors.
Je ne savais pas. Ah, mais excusez-moi. Oui, je voulais juste vous demander, bon, moi je prends un traitement antidépresseur uniquement. Moi j'ai l'impression, par rapport à ce que vous disiez, le fait qu'on ne prenne pas de médicaments par moment, moi j'ai l'impression que c'est par rapport aux effets secondaires. Parce que moi, j'en ai testé beaucoup. Et je peux vous dire qu'il y en a énormément qui ont des effets secondaires, mais très, très dangereux. Enfin, moi, je le ressens, mais vraiment comme ça. Et voilà, je pense qu'on est prêt à se soigner, mais on n'est pas prêt à aller plus mal, en fait, que ce que l'on est actuellement, en fait. Donc, moi, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à revoir au niveau des traitements. Enfin, je ne sais pas, hein, mais... Moi, je suis assez sensible à ce niveau-là. Il y a très, très peu de choses qui me conviennent. Donc, voilà. Enfin, je ne sais pas. Je ne suis pas médecin après. Hein, mais je voulais juste signaler ça, en fait. Merci.
Vous avez tout à fait... Enfin, votre question et votre commentaire extrêmement intéressant. De toute façon, c'est le problème majeur que vous soulignez. Le problème majeur, c'est l'alliance, si vous voulez, thérapeutique qu'il faut instaurer entre le médecin... qui vous soigne, enfin qui soigne, le médecin et son patient. Je disais tout à l'heure que le patient, c'est lui l'expert dans sa maladie, c'est lui qui prend le traitement, c'est lui qui sait les effets qu'il en a, et donc c'est lui qui est en mesure et qui doit dire au médecin comment ça se passe avec son traitement. Et le médecin sait que de toute façon, ce que je vous disais, 50% des gens ne prennent pas leur traitement. Donc le médecin doit vous réexpliquer, voir avec vous quel peut être l'aménagement du traitement de manière à ce que vous le preniez. Parce que la position qui... Vous voyez ce que je veux dire ? La position qui serait de dire « Bon, c'est ce traitement-là qu'il vous faut et puis c'est tout », est une position qui va dans une impasse puisque c'est de toute façon le patient qui le prend ou qui ne le prend pas ou qui se l'ajuste. Et l'idéal, c'est que cet ajustement soit fait de concert avec le médecin. C'est-à-dire que c'est un binôme, si vous voulez, c'est deux personnes qui travaillent ensemble pour traiter une pathologie. Voilà. Donc c'est cet échange qui doit être constructif. Et c'est donc absolument indispensable que vous puissiez dire à votre médecin tout ce que vous ressentez par rapport au traitement. Voilà. Alors, sur les effets secondaires, enfin, Ménimat en parlera, bien évidemment, il va y avoir des effets secondaires. Il peut y en avoir, mais dans toutes les pathologies, hein, c'est lié à l'effet propre chimique, je dirais, de la molécule. Et la question est d'ajuster ce que nous, on appelle bénéfice-risque, c'est-à-dire qu'on doit trouver quelque chose qui, à la fois, soit beaucoup plus positif pour le patient que la situation antérieure. On ne peut pas se satisfaire d'une situation qui serait pire, bien sûr. Ce n'est pas du tout l'objectif. Donc, vous voyez, c'est un travail qui doit se faire comme ça. Enfin, je ne sais pas comment font mes collègues, mais moi, c'est ce que je dis aux patients. Comment ça se passe? Comment vous vous sentez? Bien expliquer les effets secondaires. Bien expliquer aussi la durée d'efficacité du traitement. Parce que souvent, il y a des patients qui sont persuadés que parce qu'ils ont pris quelques comprimés, l'effet va être immédiat. Ce n'est pas le cas de tous les médicaments. Vous avez des médicaments, les antalgiques, vous allez ressentir l'effet immédiatement. un antibiotique, l'effet ne va pas être dans l'heure qui suit, vous voyez, c'est pas qu'en psychiatrie. Et dans les antidépresseurs, ce n'est pas au bout de 2 jours que vous allez avoir l'effet de l'antidépresseur. Il faut 15 jours, 3 semaines, voire... Après, il y a un ajustement, quelquefois, de la dose. Il y a ce qu'on appelle un effet dose, qui fait qu'on va faire évoluer la thérapeutique. Après, il y a des produits qui doivent se doser. Nemat parlait du lithium. Le lithium, la dose qui va vous convenir, c'est la dose qui est comprise dans une fourchette qui a été dosée dans une prise de sang. On dose la lithiémie. Donc, la dose qui va être bonne pour vous ne sera pas celle qui va être bonne pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, bon, donc c'est, tout ça, c'est... Voilà. Donc, je reviens sur mon propos. Donc, selon la prise en charge ambulatoire, donc, le généraliste peut prendre en charge, dans un premier temps, s'il n'a pas de difficultés particulières. Hein, c'est possible. Après, c'est la psychiatrie. Il y a la psychiatrie privée, la psychiatrie publique. Bon. On va prendre en charge, en ambulatoire, chaque fois que cela est possible. Il faut avoir cette vision. Mais il y a des fois, ça n'est pas possible. Alors, pourquoi c'est pas possible? Si c'est pas possible, c'est l'hospitalisation. L'hospitalisation peut se faire dans une clinique privée ou dans un service public, un hôpital public, dans un premier temps, enfin, si le patient est d'accord. Donc, quand est-ce qu'on va proposer une hospitalisation? Ben, on va proposer une hospitalisation chaque fois qu'on est face à un patient qui est suicidaire. Vous avez en face de vous quelqu'un qui veut se donner la mort ou qui a déjà fait une tentative avec un scénario, avec une lettre qu'il a laissée, etc., etc., ou qui a un projet qui va vous décliner ça de manière extrêmement précise. Il sait le pourquoi du comment, il a pris rendez-vous chez le notaire pour ranger ses affaires. Voilà. Là, vous avez un risque suicidaire majeur. Si cette personne est toute seule chez elle, n'accepte pas le traitement ambulatoire, il va falloir quand même négocier une hospitalisation. Il y a hospitalisation quand il y a épisode maniaque. Quand c'est un grand épisode maniaque, c'est quelqu'un qui est dans un état de surexcitation intense, ce n'est plus compatible avec la vie à l'extérieur, et là, on va avoir une hospitalisation. Alors, certains patients sont tout à fait conscients qu'ils sont en train de rentrer dans cet état maniaque, ils se présentent même à l'hôpital pour se faire hospitaliser. On en voit. Enfin, Angoulême, j'en vois. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va être le plus dérangeant? C'est l'agitation. Bien sûr, puisqu'ils sont, ils sont le plus souvent, enfin, c'est exceptionnel de voir un état maniaque qui dort beaucoup, ils sont insomniaques, ils sont agités, ils ont des troubles du comportement, c'est-à-dire une grande familiarité, une exubérance, des propos déplacés, des gestes déplacés, des propositions déplacées, et puis ça peut tourner à la violence, à l'agressivité, et ça peut être carrément des actes médico-légaux. Alors, on va faire une hospitalisation aussi chaque fois qu'on va avoir un état dépressif très grave, avec un repli et une personne qui est là dans une grande passivité. J'ai marqué état mélancolique parce qu'on appelait ça comme ça autrefois, quand la profondeur de l'état dépressif est telle que la prise en charge à l'extérieur va être compliquée. Chaque fois qu'il y a complication médico-légale, évidemment, la justice, s'il y a eu des actes médico-légaux, c'est compliqué. Et la notion d'isolement social va être un critère important, ça on le sait. Parce que ce n'est pas la même chose de laisser repartir dans sa famille quelqu'un qui est très entouré et quelqu'un qui est tout seul. Ça ne va pas être du tout la même chose. Alors l'hospitalisation se fait en service libre. Quel que soit l'état du patient, moi je dirais, s'il est d'accord, il n'y a aucun problème, on va privilégier l'hospitalisation libre. Pourquoi? Parce que s'il est d'accord pour se faire hospitaliser, ça veut dire qu'il est d'accord pour les soins, au moins au moment où on est là, qu'il se reconnaît donc malade. Il a donc une capacité à reconnaître ses troubles. Bon, ce n'est pas toujours le cas. On peut avoir devant soi un patient qui est très perturbé, très malade, et qui dit « mais non, moi je suis en pleine forme, tout va bien ». C'est vous qui êtes malade, éventuellement, vous vous trompez. C'est ma famille qui m'accompagne, mais ils n'ont rien compris du tout. Hein. Moi, je m'éclate, tout va bien, ou bien je veux me pendre, mais c'est normal, parce qu'il y a ça, ça, ça et ça qui ne va pas, et de toute façon, je suis inutile, je ne sers à rien, je veux disparaître, et ils n'y connaissent rien, je ne suis pas malade, je suis lucide, je veux me supprimer. Voilà. Donc là, il y a deux possibilités. Moi, je pense que c'est important quand même de savoir qu'il y a des possibilités de faire hospitaliser en psychiatrie des personnes contre leur avis. Puisque justement, en psychiatrie, le problème, c'est que selon l'État, il va y avoir un obscurcissement de la conscience. Donc, la personne n'a plus sa lucidité sur son propre état. Donc, heureusement, elle a un environnement et souvent, elle a une famille qui, elle, va dire « Mais non, tu ne peux pas rester dans cet état, tu dois te soigner ». Donc, il y a plusieurs possibilités. Là, je vous les ai mis. Donc, souvent, c'est la famille qui va signer la demande de placement, la demande de tiers. Et là, il va nous falloir des certificats médicaux de médecins extérieurs à l'hôpital public. Pourquoi ? C'est pour protéger les libertés des sujets français. C'est la loi qui a prévu qu'on ne puisse pas facilement, si vous voulez, hospitaliser quelqu'un. Donc, il y a une volonté délibérée que ça soit compliqué. Je dis ça parce que souvent, quand on en parle, les gens disent « Oui, mais c'est très, très difficile de les faire hospitaliser. Il faudrait que ce soit plus facile. » Peut-être, mais c'est une décision de nos députés d'avoir fait cette législation. Alors, on peut quand même avoir... Il y a des formes qui sont un peu plus, j'allais dire, un peu plus simples. Le SPDTU, c'est-à-dire un placement à la demande d'un tiers d'urgence. Donc là, il y a toujours un tiers demandeur, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui va signer. Et il n'y a pas de certificat extérieur. C'est-à-dire que c'est le médecin qui va faire l'admission, qui va recevoir le patient, qui va attester des troubles. Inversement, on peut être dans la situation où un patient arrive avec un certificat d'un médecin généraliste qu'il a consulté le matin ou la veille, mais il n'y a pas de famille, ou bien la famille qui est là ne souhaite pas signer la demande d'hospitalisation. Et ça, c'est aussi à prendre en considération. C'est-à-dire que, selon la dynamique familiale, il n'est pas toujours souhaitable. Enfin, la famille, qui est quand même là aussi la mieux placée, pense qu'elle n'est pas... Elle ne veut pas s'engager là-dedans. Donc là, c'est possible. On peut faire aussi une hospitalisation comme ça. Péril imminent. SPPI, voilà, c'est ça. Et le SPDRE, c'est soins par la demande du représentant de l'État. C'est quand il y a un trouble à l'ordre public. Ça va être quelqu'un qui, par exemple, dans un accès maniaque, prend une arme et tire. C'est quelqu'un qui, tout d'un coup, agresse quelqu'un dans la rue. Hein? Bon, là, voilà. Ou bien qui se met son balcon tout nu. Bon, vous ben voyez, c'est ce genre de choses. Pour les mineurs, donc là, il n'y a d'hospitalisation d'un mineur, même s'il est d'accord, qu'avec l'accord des parents, puisque justement, il est mineur. Il ne peut pas donner, ça ne suffit pas, son accord. Donc il faut une décision parentale, décision du responsable légal, s'il n'y a pas, selon les modes, ou alors ordonnance du procureur ou du juge. Le projet thérapeutique. Alors le projet thérapeutique, que ce soit en ambulatoire ou à l'intérieur, pendant l'hospitalisation, c'est travailler l'alliance thérapeutique. L'hospitalisation, s'il y en a une, elle va être la plus courte possible. Et s'il y a un placement, le plus court possible. C'est-à-dire que dès que le patient va aller mieux, il va prendre conscience de son état de pathologie, il va donc accepter les soins. Et à ce moment-là, on n'a plus de raison de maintenir un placement. Puisque le seul motif du placement, c'est qu'il ne veut pas être hospitalisé. Donc quand on entend « il faut maintenir le placement parce qu'on veut être sûr qu'il va rester un certain temps », c'est pas fait pour ça. Je dis ça parce que quelquefois, les familles, y a des familles qui voudraient qu'on puisse les garder plus longtemps. Ils ont peur que parce qu'ils sont en service libre, ils puissent ressortir. Mais nous devons travailler l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire que on ne peut pas, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas, de manière très longue, maintenir quelqu'un dans une situation de dépendance par rapport aux soins qu'il subit. Il faut qu'à un moment, il soit, comme on dit, acteur de ses soins. Donc, dès qu'il va être d'accord pour être hospitalisé, on va lever le placement et on va continuer les soins sur le mode du service libre. Donc, pendant cette hospitalisation, il va y avoir un bilan psychiatrique, psychologique. Alors, psychologique au sens d'un psychologue clinicien, on va rechercher des éléments de la personnalité, un bilan somatique, systématique, S'il y a d'autres pathologies, on va s'assurer que les pathologies somatiques sont bien correctement prises en charge, parce qu'il peut y avoir des interférences. On peut avoir recours à ce qu'on appelle neuropsychologue. Certains services en sont dotés, on en parlait tout à l'heure. Ça va être intéressant pour évaluer justement quel est l'impact de la pathologie quand elle s'est développée pendant plusieurs années, quelle va être, comment est cet espace, cet intervalle libre quand il n'y a plus de période aiguë, comment se situe le patient ? Est-ce qu'il a beaucoup perdu en termes de mémoire, de faculté d'attention, de concentration, de capacité à résoudre des problèmes, etc. Parce que ça va être important pour lui proposer quelque chose en termes de réinsertion sociale ou professionnelle. Sur le plan social, on peut se poser la question, selon en effet ses capacités, d'une mesure de protection des biens. Parce que justement, dans les phases maniaques, il est très dispendieux, il dépense sans compter, il y a des gens qui sont complètement, qui sont vite ruinés, donc là on a intérêt à intervenir très très vite. Ou alors il donne tout, hein, enfin, ce qui revient à peu près au même en termes de résultats. Or l'argent, le patient, à un moment, il va en avoir besoin quand il va aller mieux. Alors les outils dont on dispose, hein, ce sont des entretiens. D'abord, on travaille beaucoup en psychiatrie, ça vous le savez, avec des entretiens. Donc ça veut dire qu'il nous faut du personnel, ce qui explique que les services de psychiatrie, on a quelquefois l'impression qu'il y a beaucoup de monde, mais c'est l'outil thérapeutique numéro un. Hein. Donc il nous en faut des entretiens médicaux. On peut faire de l'évaluation, comme je l'ai dit, neurocognitive. On peut faire des ateliers, hein, c'est-à-dire on va utiliser des modes de communication non-verbaux. Vous avez des patients, en particulier des patients déprimés, eh bien, un des symptômes, ça va être la difficulté à s'exprimer, à parler. Ils sont repliés sur eux-mêmes, ne parlent pas. On peut proposer ce qu'on appelle des médiateurs, c'est-à-dire ça peut être du dessin, de la peinture, tout un tas de méthodes comme ça. Donc, dans les équipes, il peut y avoir, nous avons une ergothérapeute, une psychomotricienne, etc. Et puis, on va utiliser l'éducation thérapeutique. Alors là, je l'ai mis dans les outils. C'est plus une stratégie, c'est plus un outil complexe. Qu'est-ce que c'est que l'éducation thérapeutique ? C'est que dès que le patient n'est plus dans une période aiguë de décompensation où on gère quand même la crise, on va très vite lui expliquer, le rencontrer, constituer des groupes où on va parler de la maladie pour qu'il devienne un expert de sa propre pathologie et qu'il puisse y avoir ce qu'on appelle un patient co-thérapeute, c'est-à-dire qu'il va se soigner en même temps qu'il a le médecin, et tout ça, ça doit fonctionner de manière très fluide. Donc il va apprendre les symptômes de la maladie, les signes de décompensation, les thérapeutiques, les effets secondaires, etc., etc. Quelles sont les associations, qu'est-ce qu'il peut attendre comme aide. Il y a des endroits où il y a des points, il y a des avocats qui font des permanences. Enfin, vous voyez, il y a quand même tout un dispositif social qui est possible. L'équipe est pluridisciplinaire, donc ça, pas de problème. Addictologue, bon, vous avez compris pourquoi. Les psychologues cliniciens, neuropsychologues, l'assistante sociale, voilà. Le recours possible alors à des avis régionaux quand on est débordé, c'est tout l'intérêt de la Fédération Ariatim, c'est que justement il y ait différents établissements qui soient dans la même lignée, qui partagent des savoir-faire, donc avec une autre équipe territoriale. Des consultations possibles vers le CHU, mais ça Némat l'a expliqué, le recours à d'autres techniques. Je n'ai pas développé toute la question de la sismothérapie qui a quand même une place très importante. Et puis, ce que tu as dit, les stimulations transcrâniennes, etc. Et j'ai mis les RCP, c'est-à-dire que là, on est en train de mettre en place au niveau de la région des revues de concertation pluridisciplinaire, comme ça existe en cancérologie, pour essayer de traiter des cas complexes et des errances diagnostiques et thérapeutiques. Donc, en dehors de ce que je vous ai évoqué, il faut savoir qu'il y a des possibilités aussi de passage sur des hospitalisations de jour, parce que le dispositif psychiatrique est quand même très développé. Hospitalisation de nuit aussi, qui peut servir quelquefois pour quelqu'un qui travaille et qui revient la nuit. Et puis, dans le champ médico-social, pour des patients qui sont plus dans une évolution plus difficile, il peut y avoir des alternatives avec des lieux d'accueil, des foyers en réseau, familles gouvernantes pour des gens qui ne peuvent pas vivre seuls. Et puis, il y a les associations qui proposent des groupes d'entraide, des groupes d'activités qui sont quand même très intéressants. Donc, en conclusion, je dirais que ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en place une filière de soins avec des soins gradués, c'est-à-dire selon l'état du patient, une approche commune en ayant recours à des échelles d'évaluation, c'est-à-dire qu'on va essayer de quantifier. Il y a des échelles qui sont des échelles d'auto-évaluation, c'est le patient qui remplit, et des échelles que remplissent les professionnels. Donc il s'agit de s'enrichir respectivement, de respecter le libre choix du patient, ça n'est pas du tout une vision monolithique. Ça doit faciliter l'accès aux soins. Et en Charente, on est en train de mettre en place cette filière de soins à partir de deux pôles du centre hospitalier Camille Claudel. Voilà ce que je peux vous dire.
Je vais laisser la place. Alors, attendez. Némane, vous allez m'aider à sortir de là. Alors, j'espère que j'ai toutes les diapositives. Donc, il a été fait allusion à plusieurs reprises aux associations de patients. Je viens en représenter une ici, spécialisée dans... Vous lisez vous-même. Association d'aide aux personnes atteintes de troubles bipolaires et à leur entourage. Donc, patients et proches ensemble. Pourquoi ? Parce que bien, la plupart du temps, on vit ensemble et on a un ennemi commun. C'est la maladie. Et qu'est-ce qu'on va faire pour lutter le mieux possible contre cette maladie et vivre le mieux possible avec ? Parce qu'on nous a dit que c'est une maladie chronique dont on ne guérit pas ou très rarement. Donc il va falloir essayer de vivre avec. Une association de patients, pourquoi faire ? C'est ce qui était dans l'intitulé de la conférence. Ce que nous faisons à Argos, c'est essentiellement deux volets, information, volet 1, écoute et soutien, volet 2, information, c'est la psychoéducation, il a été fait allusion à ça. Alors, nous faisons à Poitiers, nous organisons ces réunions et ces réunions d'information et ces groupes de parole depuis 12 ans maintenant à Paris. Et en France, un peu plus globalement, c'est depuis 2001. Donc, cette psychoéducation, elle commence à converger de manière un peu naturelle, même si c'est dispensé différemment, avec l'éducation thérapeutique. Donc, la définition, c'est un terme qui a été utilisé en France depuis 1980. Je pense que beaucoup de choses... Bon, viennent du Canada, du Québec en particulier, c'est d'autant plus facile qu'ils parlent français. Donc, ça a été théorisé depuis pas mal d'années. Et la définition, c'est processus d'apprentissage et de formation théorique, comprendre le trouble et le patient, on l'a dit, on l'a entendu tout à l'heure, il est expert de sa propre maladie. Il faut qu'il devienne capable de la prendre en charge, aider ou avec les proches. Donc, c'est le docteur Gave en 2006 qui est reconnu un petit peu comme un des pionniers de tout ça. En tout cas, c'est celui dont on a parlé d'abord. Ça a dû être fait aussi en même temps. Les bonnes idées germent en plusieurs endroits en même temps et on ne retient que leur nom. À quoi ça sert, les objectifs ? Donc, obtenir une prise de conscience de la maladie, insight, mon camp. Voilà. Un patient qui ne sait pas qu'il est malade, il ne va pas comprendre pourquoi il soigne. Donc, qu'est-ce que j'ai ? Je ne suis pas bien. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Faciliter la détection précoce des symptômes précoces et précurseurs, c'est un peu pareil. Tiens, je corrigerai ça. Donc, il faut voir venir les choses. Il faut tirer la sonnette d'alarme avant que ça aille trop mal. Ou quand ça va trop mal, on ne peut plus rien faire. Ça a échappé. Et améliorer l'observance. Donc, Madame Rousseau disait 50%. Améliorer l'observance en connaissant les médicaments, leurs effets, pourquoi on les prend, les effets secondaires. Je veux pas ce médicament-là, docteur. J'ai entendu récemment, j'en ai pas d'autres. On prescrivait un corticoïde à une personne bipolaire. La personne qui vient de nos réunions depuis longtemps disait non, je veux pas de corticoïde. Excusez-moi, madame, j'ai rien d'autre et c'est par là-bas. En MCO. Les objectifs secondaires, donc, apprendre à contrôler son stress. On va essayer d'avoir une vie, adapter sa vie en fonction de la maladie. Alors, il ne faut pas devenir moine, il ne faut pas ne plus rien faire, il ne faut pas... Mais tout ça, on va en parler, on va l'expliquer. Comment ça se passe? 10 réunions d'information par an, de septembre à juin, assurés par des professionnels du médical ou du médico-social. Alors, à l'association, nous ne sommes pas soignants, nous ne sommes pas médecins, nous n'avons pas de parole médicale, on se garde bien ça. On pourra parler de traitements, de médicaments, mais c'est les patients qui parleront de leur propre traitement. Jamais on dira « tu devrais essayer tel médicament ». En tout cas, on évitera ça. C'est le médecin qui va dire « on va dire » Parle-en à ton médecin. Discute avec lui. Ouais, mais j'ai pas le temps, il n'écoute pas. Essaye à nouveau la prochaine fois. Oui, mais j'ai oublié. Tu feras une petite liste et il te arrivera chez lui, enfin dans son bureau, et tu poseras ta petite liste et l'une après l'autre et tu passeras tout ça. Voilà, ça c'est des vieux trucs qu'on s'est inventés entre patients et proches. On l'a découvert. On nous l'a un peu dit aussi, mais bon. Le programme d'information, ça contient tout ça. Donc, l'éducation thérapeutique fait un peu ça, une partie. Je vous laisse regarder. C'est basé sur un programme qui a été établi il y a plus de presque une vingtaine d'années avec un laboratoire, parce qu'il faut bien de l'argent. Et puis, les laboratoires vendent des médicaments, ils gagnent de l'argent, et voilà, ils en reversent un petit peu comme ça. Et les associations de patients, entre autres Argos. Le programme s'appelle Bipolact. Je ne l'ai pas mis et je ne vous dirai pas de quel laboratoire il s'agit. Tout ça, c'est dans le programme de base. Une séance. Pour la plupart, c'est des médecins qui viennent de l'hôpital, qui prennent sur leur temps libre pour venir aux environs de Poitiers. Une heure et demie expliquer tout ça aux patients. Et nous avons rajouté, parce que la question s'est posée, elle venait des groupes de parole. Ouais, mais j'ai pas de boulot à cause de ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a demandé à des travailleurs sociaux, à des associations, de venir expliquer comment on peut retrouver du travail lorsqu'on souffre d'une pathologie comme celle-là. Et la prévention du suicide. Cette question, elle arrivait dans les groupes de parole ou dans les réunions d'information et ça glaçait tout le monde. Donc on s'est dit, nous, on a du mal à parler de ça, parce qu'on est très proche, on a vécu, ou notre proche a vécu ça. Nous, on l'a vécu, on est éclaboussé par ça. Donc on a demandé à des professionnels d'en parler. Ce que nous, on ne sait pas faire, on demande à ceux qui savent. Voilà, c'est notre philosophie. Que dire de plus sur l'information? Voilà, vous savez tout. Sur l'écoute et soutien, alors pourquoi? Face à la maladie, les patients et les proches sont désemparés. Se posent des questions, n'obtiennent pas de réponse, les posent à leur psychiatre, mais entre les rendez-vous, il y a d'autres questions qui viennent, il y a peut-être urgence à les poser. Et cette maladie est très, très stigmatisante socialement. Ce n'est pas à votre voisin, à votre belle-sœur, que vous pouvez parler de ça. C'est pas facile du tout. Donc, où est qui en parler? Bien, on a organiser des groupes de parole et d'auto-support. Donc, parole et auto-support. On se réunit. On installe un cadre sécurisant, un cadre confidentiel. On dit, voilà, ce qui se dit ici ne sort pas de la pièce. Exprimez-vous si vous le souhaitez. Si vous voulez parler, on parlera chacun son tour. Si vous, aujourd'hui, vous êtes en dépression, vous avez fait un gros effort pour venir, on ne va pas vous dire, et toi, parle maintenant. Donc, on a le droit de se taire. Voilà. Ce sont des groupes ouverts. C'est l'auberge espagnole. On ne demande pas de rendez-vous. On ne demande pas aux gens, inscrivez-vous à l'avance. C'est souvent un gros effort, en fait, de venir s'engager pour ça. Voilà, on gère. Des fois, on est en nombre relativement gérable. Des fois, c'est plus et on arrive. Je n'ai pas le souvenir qu'on ait jamais géré, qu'il y ait eu de problème où ça partait en vrille, ni rien. Le groupe s'avère souvent être régulateur. Ces groupes sont animés par des bénévoles d'une association formée à l'animation de groupes de parole. Ah, mais j'avais dit que je ferais 10 minutes. Et voilà, les contacts. Vous pouvez noter si vous voulez. Allez voir sur le site. Il n'y est pas. Bon, vous trouverez, oui, Argos. Vous passerez par le site, par là. On a une souris là, oui. Vous passerez par là. Le site web, et vous nous trouverez. Sinon, tapez Argos 2001, Vienne, Poitiers, Bipolaire, et vous arriverez directement sur le site. Voilà, les prochaines réunions, je ne sais plus, 18 novembre, un groupe de parole. Décembre. Vous voyez, c'est fatigant la maladie, y compris par procuration. Et prochaine réunion d'information sur les traitements pharmacologiques, qu'est-ce qui peut me le rappeler? 12 janvier? C'est ça? D'accord. Voilà. J'en ai terminé. J'ai essayé d'être rapide. J'y suis arrivé. Place aux questions.
Donc, merci aux trois intervenants.
Et maintenant, il y avait une question là-bas.
Je reste là.
Une affirmation. Allez-y, allez-y.
Je pensais juste qu'on avait oublié un module et ils sont venus après sur la diapositive.
D'accord. T'es une ruse.
Merci. Le docteur Rousseau a évoqué le rapport bénéfice-risque. Et puis dans la salle, quelqu'un a parlé d'effets indésirables avec les traitements médicamenteux. Je voulais en profiter pour signaler qu'il est très, très important d'utiliser le dispositif de pharmacovigilance. Et lorsque l'on est confronté à des effets indésirables, les professionnels de santé, bien sûr, sont tenus de déclarer. Mais cette possibilité s'est ouverte à tous les usagers, à tous les patients et à toutes les associations de patients. Et je tenais à le souligner. Donc, vous tapez sur un moteur de recherche ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament, et la page qui va s'ouvrir, en principe, s'ouvre sur déclarer un effet indésirable. Vous êtes professionnel de santé, vous êtes patient, vous êtes association de patients, etc. Je pense que c'est très important parce que le rapport bénéfice-risque d'un médicament évolue même après qu'il ait été mis sur le marché. Et plus les déclarations sont nombreuses et rapides, et plus un médicament qui s'avérerait éventuellement dangereux est retiré du marché. Cette ouverture aux patients est consécutive à l'affaire du Mediator, simplement, pour donner une idée de...
Merci pour ce commentaire. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ?
Bonsoir, moi je suis ici pour connaître un petit peu plus sur la maladie et puis sur les moyens d'aider ma sœur qui est bipolaire, mais elle a 55 ans, elle n'est pas à sa première crise et là la crise elle prend des ampleurs catastrophiques, elle est en phase haute, donc maniaque. Elle dépense tout son argent, son fils est chez moi. Elle nous supplie de rien faire contre elle parce qu'elle sait faire, elle sait tout. Elle a pris rendez-vous, selon elle, mais je vais vérifier, à Saujon pour parce que elle a, mais elle veut pas. Je lui avais pris un rendez-vous au CMP. Elle a décommandé. Elle dit que c'est des pièges, qu'on veut l'enfermer. Et elle a fait une tentative. Enfin, elle a dit qu'elle allait supprimer une collègue, donc son boulot. Qui l'a arrêté médicalement, elle a dit qu'elle avait un burn-out. Donc, elle est persuadée qu'elle a un burn-out. Quand on lui parle de bipolarité, elle dit non, c'est fini tout ça, je suis fatiguée. Elle a travaillé pour un laboratoire médical, elle dit qu'elle a été manipulée. Enfin, bon, voilà, ça prend des proportions. Voilà. Elle a un dialogue qui paraît cohérent parce qu'elle a toujours des idées qui fusent dans tous les coins, elle fait des recherches et tout. Donc on se dit là maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'ai demandé à son médecin qui ne veut pas prendre le risque de faire un certificat si elle n'est pas volontaire. Donc maintenant, on a la solution de la contraindre à se soigner. Et ça, on a du mal à sauter le pas. Et je sais que ce n'est pas bien, mais je ne voilà. Je sais pas quoi faire.
Alors, ce que vous...
Oui, c'est bon.
Je crois que c'est pas sûr.
Ce qui est intéressant, ce que vous dites, enfin, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'elle a quand même une conscience partielle qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puisqu'elle appelle ça un burn-out. Alors, bon, peu importe le terme qu'elle y met, c'est pas grave, ça. Elle y met quelque chose. Parce qu'elle pourrait ne rien mettre du tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, elle parle de burn-out. Moi, je me saisirais de ce burn-out et je dirais, c'est possible, il faut que tu ailles voir, il faut que tu ailles consulter, il faut savoir si c'est vraiment un burn-out. Je tirerais, vous voyez, une sorte, comme une ficelle, quoi, une espèce d'écheveau. J'essaierais de tirer du côté du burn-out, c'est-à-dire du côté de la dépression, parce que c'est ça, quand même. Hein. Merci. C'est du côté de la dépression que ça se passe, donc moi je tirerai par là, parce que c'est toujours plus facile d'accepter d'être déprimé plutôt que de parler tout de suite de troubles bipolaires ou de parler d'une autre pathologie. Bon, si on parlait schizophrénie, ça serait, vous voyez. Donc moi je ferai ça. Et puis alors après, il y a quelque chose qui existe peut-être, ça dépend de l'endroit où vous êtes. Il y a des endroits où il y a des numéros de téléphone, vous pouvez avoir des professionnels de santé, par exemple Angoulême, là, ce soir, vous pouvez décrocher votre téléphone, j'ai le numéro, vous aurez un médecin psychiatre, là, tout de suite, avec qui vous allez pouvoir discuter, qui peut relayer sur un collègue qui est du secteur où habite votre sœur. Il peut y avoir un contact de prix entre le psychiatre que vous aurez contacté téléphoniquement et le généraliste de votre sœur. Donc vous voyez, déjà, ça change. C'est-à-dire que c'est le psychiatre qui va appeler le généraliste en disant « Hier soir, j'ai eu Madame X au téléphone. » Voilà. Vous voyez ? Essayez comme ça de vous appuyer sur différentes personnes. Et puis, si la situation se dégrade, en effet, si... voilà, à ce moment-là, oui. Une hospitalisation sous contrainte. Mais il faut retourner vers le généraliste, parce que le généraliste, il en a forcément une vision dans son cabinet ou à domicile s'il y est allé, mais il a une vision qui est dans l'instant où il a eu cet entretien médical. Les éléments fournis par la famille sont extrêmement importants. Le généraliste ne peut pas savoir le comportement que vous décrivez. Il ne l'a pas vu, c'est vous qui allez le lui apprendre. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, je ne sais pas, Némat.
Oui, alors, c'est dans la manière et ce que vous dites, vous en souffrez. C'est-à-dire, vous dites, mais c'est difficile de prendre la décision de l'hospitaliser sous contrainte, c'est ça ? Et la loi a prévu, ce que ma collègue vous a présenté, on ne parle plus d'hospitalisation sous contrainte. On parle des soins sous contrainte. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que parfois, pour le bien-être de quelqu'un de sa famille, pour avoir des soins, il faut passer par la question de contrainte. On peut prendre des exemples simples. Hein. C'est parfois Je prends un exemple très, je veux dire, avec son enfant, on dit je vais te punir pour ton bien. C'est un exemple, ça n'a rien à voir, mais c'est juste pour vous dire, parfois on fait des choses, on dit voilà. Mais c'est pas, là, ce n'est pas une punition d'hospitaliser sous contrainte ou de donner des soins sous contrainte. C'est parce que plus vous laissez cette situation traîner, plus la souffrance qui va avec va augmenter. Pour le patient, mais aussi pour vous-même. Et c'est vrai que c'est jamais simple. C'est facile à dire, être assis derrière une table et de dire, et de le faire. Hein? Et pour avoir testé moi-même, je sais que c'est compliqué de faire le pas. C'est très compliqué de faire le pas. Mais je vous assure que une fois qu'on a fait le pas, de la manière dont ma collègue a décrit les choses, on se sent libéré. Et les gens de la famille souvent vous remercient par la suite. Je voudrais quand même revenir sur la question de la dame qui nous a dit tout à l'heure par rapport à la question de l'observance. Alors, ça, c'est un vrai problème. En fin de compte, ce que ma collègue voulait dire par la question de l'observance, c'est que combien d'entre vous, alors actuellement, c'est la période des grippes, rhumes, etc., je pense qu'il y en a, parce que moi, j'ai de la fièvre ce soir, donc je pense que ça se voit. Mais combien d'entre vous ont eu, par exemple, depuis un mois ou 15 jours, ou actuellement, des antibiotiques, et combien de jours vous le prenez?
Il y a des gens bien portants.
Ici, il n'y a pas. Bon.
Y a pas.
Alors, je peux vous dire qu'en moyenne, le nombre de jours d'antibiotiques qu'on prend, c'est 2 jours. En moyenne. Maximum 3. Même si c'est prescrit pour plus de temps que ça. Et ça, si je inverse la question et je vous posais la question, il y a des femmes, combien de fois ça vous est arrivé d'oublier de prendre les pilules? Ah là, il y a un peu plus de monde. Hein. Donc, en fin de compte, l'idée n'est pas de dire que c'est la faute du patient de ne pas prendre son traitement. C'est pas ça. Et que, ou alors le traitement, on ne le prend pas à cause des effets secondaires, ou c'est parce que c'est inefficace, etc. La question est juste de vous faire repérer que même lorsque on est bien volontaire, dans les pathologies chroniques, il y a des périodes où les patients ne prennent pas leur traitement et que les facteurs explicatifs, il y a plusieurs, dont les effets secondaires. Il y a aussi d'autres facteurs qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est ça, on voudrait remarquer. Pourquoi une femme oublie de prendre sa pilule? Pourquoi? Alors que c'est pas, je veux dire, il n'y a pas d'effet secondaire particulier, sinon elle ne le prendrait pas pendant des années, etc. Mais parce qu'il y a dans les pathologies, lorsqu'on prend quelque chose de manière chronique, en long cours, il y a automatiquement des situations d'oubli, il y a des situations... Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler. Le fait d'en parler, le fait de le dire, le fait de porter une attention particulière, eh ben, ça peut modifier les choses. Le fait que les patients soient experts de leur pathologie et qu'ils sachent repérer les périodes où ça ne va pas, ça permet d'améliorer l'observance. Souvent, les patients bipolaires ou les patients qui ont des pathologies, la dépression, par exemple, unipolaire, la rechute est souvent, ça recommence de la même manière avec les mêmes symptômes. Hein. Ça recommence toujours par cette difficulté d'endormissement, puis on ne dort pas, puis après, ça commence. Ou ça commence, par exemple, par le fait qu'on commence à avoir des idées tristes, on commence à avoir des idées suicidaires, etc. Je veux dire, le chemin par lequel ça commence, c'est souvent la même porte. Et si on leur apprend aux patients que cette porte-là, cette manière-là que ça commence, il faut consulter tout de suite ou modifier le comportement tout de suite, eh bien, ça aide les patients à ne pas rechuter. Vous voulez dire quelque chose?
Oui, je ne sais pas si j'ai été clair tout à l'heure, mais les séances... De psychoéducation et nos réunions s'adressent aux patients et aux proches. Et dans l'observance, le proche a un rôle certainement, un rôle qui est un petit peu délicat. Le rôle, c'est de s'assurer que la personne qui a un traitement prend ses médicaments correctement, tout en gardant une distance suffisante pour que ça n'ait pas l'air d'une surveillance. Surtout dans les épisodes un petit peu maniaques, hypomanes, où ça part, vous le savez, en flamme assez vite. Donc, il y a des stratégies. Moi, j'en ai utilisé. J'ai un traitement long cours. Alors, c'est un petit cérémonial, un petit rite au moment du repas. Tiens, je prends mon cardégique. Tiens, bon, d'accord. Alors, sans dire, et toi, tu as pris ton tégrétol. Non, voilà. Et on peut installer un pilulier, des choses comme ça, des toutes petites choses qu'on apprend en psychoéducation, en éducation thérapeutique. Et je le redis, c'est délicat. Il faut être très attentif, tout en n'étant pas trop près, tout en étant... Voilà.
Moi, je voudrais dire quelque chose par rapport à la prise de traitement. Ça a été dit, tous les traitements au long cours sont difficiles à suivre. Et en particulier, très vite, on se rend compte qu'on se ritualise dans la prise du traitement. C'est-à-dire qu'on prend le traitement, mettons, au petit déjeuner, donc en même temps qu'on prépare le bol, le ci, le là, on met le médicament à côté, ou si c'est le soir au coucher, il est dans le tiroir, mettons, je ne sais pas, de la table de nuit ou comme ça. Sauf que de temps en temps, ben, on part en voyage, on part en week-end, on se déplace, ou bien on sort, on rentre tard, et ce qui était instauré va être dérangé. Et c'est là, alors là, le risque d'oubli est vraiment multiplié. Après, on sait aussi que c'est beaucoup plus difficile les prises du midi. Prendre un traitement le matin et le soir, c'est plus facile. Les prises de la journée vont être plus complexes. C'est pour ça que dans l'ensemble, les médecins essaient autant que faire se peut, de limiter les traitements matin et soir. C'est pour ça aussi que, quelquefois, on propose des formes retard. Parce que certains patients préfèrent avoir une injection en retard mensuelle ou tous les 15 jours et ne plus se préoccuper du traitement. Donc, après, ça, c'est vraiment aussi une négociation au cas par cas, selon le traitement, avec le médecin, selon l'évolution clinique.
Il y a des questions ? Oui.
Bonsoir. Donc moi, je suis venue à cette conférence par curiosité. Dans mon travail, j'ai affaire à des personnes dont parfois je suspecte peut-être des troubles bipolaires. Et en fait, je suis un peu... je voudrais savoir quel positionnement on doit avoir par rapport à ces personnes qui sont par exemple en phase maniaque. Voilà, parce que du coup, on ne sait pas trop comment réagir. Et on ne sait pas tout. Enfin, moi, je ne sais pas si elles sont bipolaires ou pas. Hein, mais je voulais savoir s'il y avait un positionnement particulier. Est-ce qu'elles sont réceptives à ce qu'on dit ? Voilà.
Alors, ça, c'est une très bonne question. Si vous ne savez pas s'ils sont bipolaires, à ce moment-là, vous ne pouvez pas parler de la bipolarité. Je pense que dans ce genre de situation, la meilleure des choses, c'est discuter avec les collègues. Tout n'est pas bipolaire. Il y a des gens qu'on appelle affectophiles, c'est-à-dire il y a eu à un moment donné des gens, dès que ça bougeait, c'est un bipolaire. Et ben non. Les gens peuvent avoir autre chose dans la vie que la bipolarité. Et là, par exemple, tout à l'heure, M. Lavigneux disait, il y a une patiente bipolaire qui est partie à l'hôpital et on lui a proposé des corticoïdes. Parce que vous savez, les corticoïdes, ça peut engendrer une accélération psychique. Mais chez tout le monde, hein, chez tout le monde. Et quand vous prenez un peu de corticoïdes, vous êtes en forme, quoi. Chez les patients bipolaires, si vous mettez des corticoïdes, il faut faire très attention parce qu'il y a un risque de virage maniaque. D'accord ? Mais si vous n'êtes pas bipolaire, vous êtes quand même, je veux dire, vous êtes un peu plus que normalement gai, joyeux et tout ça. Donc je pense que la première des choses, c'est d'être sûr qu'il s'agit d'une bipolaire, d'un patient bipolaire, et puis de lui poser la question, enfin de discuter ensemble. Discuter dans le sens d'une communication, d'un échange. Si la personne vous dit que ça n'a rien à voir avec le travail et vous, bah, ok. Si ça a un rapport avec... si la personne dit, oui, bah, j'ai telle maladie, bon, ça... Vous voyez, je pense qu'il faut faire attention de ne pas incriminer les gens comme bipolaires alors que ce n'est pas le cas.
C'est pas que j'incrimine, mais c'est que parfois, quand ils sont... Enfin, moi, je connais des personnes qui ont pas une maniaque agressive, et en fait...
Une personne très agressive, en phase maniaque, comme ça, complètement... Et en fait, c'est comment se positionner par rapport à ça, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit la calmer, est-ce qu'on doit... ou alors, ça sert à rien, est-ce qu'il faut la laisser parler, est-ce que... En fait, qu'est-ce qu'il faut faire, enfin, voilà, quand on est agressé, sollicité, qu'on trouve le comportement pas normal. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas de compétences. Après, non, il ne s'agit pas de...
Là, je vais vous raconter une histoire, c'est que dans le cas... Alors, premièrement, je pense que le traitement de la manie, d'accès maniaque, la première des choses, c'est l'isolement. C'est-à-dire le fait qu'il n'y a plus de... communication extérieure, parce que ça diminue cette situation de solitude, enfin de d'isoler, ça diminue la manie en soi. Et après, il y a d'autres choses. Mais je pense qu'encore une fois, les troubles de comportement sur le milieu de travail, la meilleure des choses, c'est de conseiller aux personnes d'aller voir la médecine du travail. C'est fait pour ça. Voilà, s'il y a lieu à, encore une fois.
Alors après, la première chose, tout dépend ce que vous ressentez. Et moi, je dirais que si vous avez vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé dans le comportement de quelqu'un, si vous voulez l'aider, la première aide, c'est déjà d'essayer de le lui dire. Aussi gentiment, si je puis dire, et amicalement que possible, parce que c'est aussi l'aider... dans la prise de conscience. Parce que si vous l'avez noté, d'autres l'ont aussi noté. Donc vous l'aidez dans cette prise de conscience de ses difficultés. Il peut-être être amené à vous dire qu'il y a un événement dans sa vie, qu'il est en train de se séparer, qu'il a ça, qu'il a des problèmes d'argent. Les gens, quelquefois, quand vous commencez à parler avec eux, ils vous disent pourquoi ils sont énervés, de mauvaise humeur. Vous voyez, ils peuvent vous dire des choses. Peut très bien aussi vous envoyer paître, hein, ça c'est possible aussi. Mais au moins vous aurez eu la satisfaction d'avoir tenté de l'aider, si c'est ça que vous souhaitez, et de l'aider peut-être à se faire prendre en charge s'il en avait besoin. Donc je crois que le pire, c'est surtout de faire comme si on ne voyait rien. Hein. Voilà, c'est de faire comme si on ne voit rien. Voilà, les autres sont transparents, et là c'est quand même... Bon, ça questionne, moi, je dirais, de faire ça. Après, bon, bah, et c'est aussi, comme dit Némat, de pouvoir discuter avec d'autres collègues pour dire, voilà, j'ai remarqué que, etc. Tout ça, ça doit être bienveillant, hein. Sinon, c'est évidemment très mal perçu. C'est la même chose dans un couple. C'est la même chose dans une famille. Ce n'est pas facile, forcément, de dire à son conjoint qu'on trouve que depuis quelque temps, il est de très, très, très mauvaise humeur, et ça, sans raison majeure, ou que les motifs qu'il avance ne paraissent insignifiants, vous voyez. C'est souvent ça qui va nous être renvoyé. La famille va dire, oui, mais moi, j'ai constaté, il se met en colère pour un rien, il n'avait pas ce type de comportement, vous voyez. Ou au contraire, il rentre le soir, il ne parle plus, il se met dans le fauteuil, et puis il n'a qu'une idée, c'est d'aller se coucher. Le week-end, il fait la sieste, alors qu'il ne dormait jamais. Vous voyez, c'est des choses comme ça, qui sont des petits signes cliniques qui vont pouvoir amener un certain dialogue.
Alors, rebonsoir. Moi, j'avais une deuxième question, en fait. Je souhaiterais qu'on fasse un peu la différence entre la dépression et la bipolarité. Alors, je vous explique, en fait, moi, j'ai eu un gros choc émotionnel, en fait, à l'âge de 22 ans. Donc, j'ai fait une tentative de suicide à ce moment-là. Donc, j'ai été hospitalisée en clinique, en fait, à ce moment-là, sur Tours. Et depuis 2007, en fait, je fais, on va dire, un épisode dépressif tous les 2-3 ans, en fait. Mais je n'ai jamais été diagnostiquée bipolaire. Et bon, je ne crois pas, je n'ai pas l'impression de l'être en tout cas, parce que j'ai jamais ressenti de saut d'humeur ou ce genre de choses. Mais tout à l'heure, dans ce que vous nous expliquiez, vous aviez l'air de dire que si on faisait des dépressions en répétition, cela pouvait cacher quelque chose de bipolaire, hein, et que c'était tout diagnostiqué sous 7 à 10 ans en fait. Donc moi aujourd'hui je prends juste des antidépresseurs, ça me va très bien. J'avoue que j'ai pas trop de suivi à l'extérieur, mais c'est un petit peu volontaire en fait, parce que j'essaie de m'en sortir toute seule. Puis malgré tout, je dois dire, j'ai plus trop confiance en fait avec le traitement, quoi que ce soit, quelques traitements médicamenteux suite aux effets secondaires qui pour moi étaient plus dévastateurs qu'autre chose. Donc voilà, ma question est simple en fait. Je voulais savoir s'il y avait un risque que je tombe dans la bipolarité un jour ou pas du tout, sachant que j'ai le caractère qu'il faut pour m'en relever à chaque fois. Donc je ne sais pas en fait. Voilà, merci.
Avant de répondre, peut-être une deuxième question, puis on arrêtera là pour répondre globalement. Non, il y a une, personne qui avait posé une
question. Il y en a plusieurs. Il y en a là-bas aussi.
Alors, laisser plusieurs questions, ouais. Après on fait un...
Moi c'était pour rebondir la dame par rapport à son attitude adoptée, parce que moi elle est diagnostiquée bipolaire, ma soeur, c'est sûr et certain quoi. Et donc quand on a voulu l'aider, on était très très proches, on faisait plein de choses ensemble, donc elle voulait du soutien, de l'amour fraternel et de la douceur, etc. Sauf que quand on n'allait pas dans son sens, elle se fâchait, elle nous raccrochait au nez, elle partait, claquait la porte, etc. Donc à un moment donné on a dû y aller un petit peu plus durement pour lui dire que c'était pas comme ça, qu'on n'était pas que des oreilles pour écouter, ou simplement pour la brosser dans le sens du poil pour être d'accord avec elle. Donc là ça a mis une barrière entre nous et voilà. Donc plutôt là ça m'a fait penser à quoi adopter comme comportement pour pas qu'elle pense qu'on est ses ennemis maintenant, et qu'on puisse qu'elle accepte, qu'on puisse l'aider de façon juste. Voilà, c'est tout.
Allez-y encore.
Je suis désolé. Il faut aussi respecter les gens qui travaillent dans l'établissement.
J'ai une question passant sur l'unité de recherche, et pourquoi pas aussi un centre expert sur les troubles bipolaires à Poitiers.
Là-bas, non ? Derrière ?
Non, on va arrêter, Néman.
Non. Alors, pourquoi ? Parce que, comme vous savez, d'abord, le centre expert, c'est une émanation de Paris, des collègues parisiens. C'est pourquoi oui ? Vous dites pourquoi pas, je dirais pourquoi oui. D'abord. Et deuxièmement, c'est qu'on peut aussi avoir des idées nous-mêmes ici à Poitiers et de construire des choses qui est plutôt sur le modèle de ce qui se fait aux États-Unis, en Angleterre, qui peut être beaucoup plus complémentaire qu'une vision parisienne des choses. Ça, ça n'engage que moi. Mais il se trouve que je pense qu'en Poitou-Charentes, nous avons suffisamment de forces vives et des idées pour essayer de faire vivre notre région en étant tous ensemble et en essayant non seulement voir des patients pour faire passer des échelles, ce qui est un petit peu le cas de ce qui nous est proposé jusqu'à maintenant, mais de proposer une vraie prise en charge personnalisée avec une question thérapeutique. Et donc, pour essayer en même temps de répondre aux questions que cette dame nous a posées tout à l'heure, je pense que là, on ne peut pas en une minute répondre à la question. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je pense véritablement il y a des choses qu'il faut éviter dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire de penser que, je suis suffisamment fort, je vais m'en sortir seul. Allez, tu es feignant, tu as qu'à te lever, et puis aller au travail, c'est pas la, tu sais pas une dépression, c'est parce que tu n'es pas motivé, etc. Ou alors, c'est des choses, encore une fois, que j'ai vu un couple récemment et sa femme me disait ça, c'est par exemple, il y a eu une histoire de... C'est une dame qui avait repéré son mari, aller regarder sur Internet des vidéos ou des photos de femmes nues. Son mari souffre d'une pathologie bipolaire. Et donc, là, ça ne lui a pas plu. Et donc, son mari vient la voir et lui dit « Écoute, j'ai fait des bêtises. » Et elle lui répond « C'est pas grave, prends ton médicament et va te coucher. » Et donc, du coup, lui, ce qu'il a fait, non seulement il n'a pas pris son traitement, mais il a passé tellement de temps sur Internet que le prix, enfin, sur les sites, ça a coûté très cher. Et donc, en fin de compte, c'est ça que je voudrais vous dire, c'est que je pense qu'il y a des situations comme ça où il faut faire attention, parce que dans la vie de tous les jours, je pense que ça doit être travaillé dans les groupes, c'est qu'il y a des mots qui blessent ou des situations blessantes, même si on a l'impression que les patients n'ont pas suffisamment conscience de troubles et qu'ils peuvent ne pas comprendre la maladie, mais ils comprennent bien la vie. Et à ce moment-là, il ne faut pas dire c'est des malades et puis voilà, les stigmatiser, c'est comme ça. Non, je pense qu'il faut véritablement voir les choses autrement. Et pour aller plus loin dans ce sens-là, le fait d'aller voir des collègues psychiatres qui orientent le diagnostic et dans le cadre de ce qu'on est en train de développer, des situations, des dossiers sur lesquels on n'est pas sûr que ce soit une dépression, que ce soit une question de sévérité de la maladie ou absence de réponse thérapeutique. Cette fédération qu'on a mise en place en Poitou-Charentes, ça permet justement de répondre à ces questions-là, parce qu'il va y avoir un dossier peut-être discuté par plusieurs médecins. Voyez ? Et à ce moment-là, de dire, est-ce que c'est une dépression bipolaire ? Est-ce que c'est une dépression unipolaire ? Est-ce que c'est une hypomanie ? Etc., etc. Voilà, je m'arrête là parce que...
Merci. En tout cas, excusez-nous de ne pas avoir pu prendre toutes les questions parce que le temps était un petit peu réduit pour le faire. Seulement, je crois qu'on a illustré que du même côté de la table, la recherche, la clinique et les associations d'usagers contre la maladie, c'était le fil conducteur de vos interventions et c'est ce qu'on a illustré. Merci.
Merci à vous.